Bienvenue à l'Église réformée du Bouclier à Strasbourg. Nous sommes heureux de vous proposer la méditation de ce dimanche.
Des pharisiens vinrent lui demander, pour le mettre à l'épreuve, s'il est permis à un mari de répudier sa femme. Il leur répondit : « Que vous a commandé Moïse ?» Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une attestation de rupture et de répudier. Jésus leur dit : « C'est à cause de votre obstination qu'il a écrit pour vous ce commandement. Mais au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Je commencerai par un aveu. Lorsque j'ai découvert le texte du jour, mon enthousiasme a été plus que mesuré. Mais le texte est là, et un texte a quelque chose à nous dire. Et donc, que veut nous dire ce texte sur nous, sur notre relation à Dieu, sur notre relation aux autres? Et quoi particulièrement en dehors de la question directement évoquée du divorce? Comment lire et interpréter ces paroles qui ont fait l'objet de tant d'interprétations accusatrices et culpabilisantes? Et pourtant, ce texte est là. Et cela nous contraint, si je puis m'exprimer ainsi, à le regarder en face. Je vous propose donc un parcours en trois étapes. Dans un premier temps, nous essaierons de préciser et de mieux cerner la signification de certains termes dans ce passage. Et dans un deuxième temps, nous tenterons de prendre la hauteur par rapport à ce texte et de resituer ce texte dans le contexte et dans l'ensemble textuel dans lequel il se trouve inséré, et de comprendre comment cette parole de Jésus peut nous ouvrir une voie à une conception autre, proprement renversante de la vie, de la relation avec Dieu et avec autrui, et ce que cela implique pour notre vie, ici et maintenant. Une fois de plus, si j'ai bien compté, c'est même la sixième fois, Jésus se trouve confronté aux pharisiens et à leur opposition systématique. Et comme toujours, l'enjeu de cette confrontation est son rapport à la loi, c'est-à-dire à la Torah. Mais le terme « loi » est un terme bien inapproprié pour rendre la polysémie du mot « Torah » en hébreu. Le mot « Torah » est en effet à entendre dans le sens d'orientation, de voie, sur laquelle est possible un cheminement commun. Cela implique donc, dès l'abord, deux choses. D'une part, il ne s'agit pas stricto sensu d'un ordre, d'un commandement, mais plutôt de l'indication d'une direction. D'autre part, cette Torah concerne la vie avec l'autre, que vous écriviez l'autre avec un petit A ou avec un grand A. La deuxième remarque que je ferai, c'est qu'une fois de plus, Jésus déjoue le piège tendu par les pharisiens, et ce de deux façons. À la question qui est supposée le piéger, il répond non seulement par une autre question, mais dans sa question, il introduit un autre verbe. Et ce glissement sémantique, ce glissement de vocabulaire, oblige les pharisiens à recadrer leur formulation. En effet, alors que les pharisiens ont demandé « Est-il permis à un mari de répudier sa femme ?» Alors, les deux choses que Jésus va modifier, c'est le verbe « permettre », puisque Jésus va passer à la notion de « commander, ordonner ». Et les pharisiens utilisent ce « est-il », cette forme impersonnelle qui, dans la tradition juive, fait toujours référence à Dieu. Et Jésus va dire à la place de ça, que vous a commandé Moïse. Or, il se trouve que sur le thème précis de la répudiation, Moïse n'a rien commandé du tout. Et que les pharisiens le savent si bien que dans leur réponse, ils reprennent le verbe « permettre ». Et grâce à cette première reculade, certes discrète des pharisiens, Jésus va pouvoir faire un pas de plus dans sa réponse et attribuer la raison de ce commandement, comme les pharisiens l'ont bien senti, et les pharisiens, pardon, ont bien senti que ce n'était pas un commandement mais une permission, Jésus va donc attribuer la raison de cette permission à ce qu'il appelle la dureté du cœur. Alors, certaines de vos traductions ont la dureté du cœur, celle que j'ai choisie avait l'obstination. En grec, c'est un mot qui traduit littéralement serait la sclérose du cœur. Mais là aussi, dans la pensée juive, il est important de savoir que la dureté du cœur ne signifie pas l'insensibilité, pas du tout, mais que ça signifie qu'on est incapable de comprendre. Je crois que c'est Babu, dans un de ses commentaires, qui dit que ça signifie avoir l'esprit bouché. Parce que dans la pensée juive, on comprend avec le cœur et on éprouve des sentiments avec les entrailles. Ensuite, Jésus avance un pion suivant, il va plus loin. Et il va remonter non seulement dans le temps, mais dans sa référence à l'autorité. En effet, il remonte à la création et à la volonté divine. Et là aussi, une surprise de taille nous attend, parce que dans sa reprise du texte de la Genèse, et notre traduction, plus exactement le français pose ici problème, parce que le français ne fait pas ce distinguo, le grec a recours au mot anthropos, c'est-à-dire l'être humain, et non aner, qui est l'homme. Il faudrait donc lire l'être humain qui trace son père et sa mère. Et il faudrait aussi ajouter que nombre de manuscrits s'attachera à sa femme. Cette partie-là, dans nombre de manuscrits, ne figure pas. Et Jésus va poursuivre et terminer que l'être humain, donc que l'homme, mais que l'être humain, c'est à nouveau anthropos, ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. De cette façon, Jésus est donc passé du terrain juridique, du permis défendu, présenté comme une concession, celle où se situent ses contradicteurs, au projet de Dieu pour l'homme et pour la femme. Mais le risque est alors grand de comprendre cette parole de Jésus comme une radicalisation plus grande et encore plus culpabilisante et accusatrice que la loi de Moïse. Ce constat nous amène donc à faire trois remarques. La première, qui est tout à fait révolutionnaire pour l'époque de Jésus, c'est le fait qu'en recourant au terme « être humain », Jésus inclut la femme dans son raisonnement et qu'il la met sur le même plan que l'homme et qu'il met ainsi en crise le système conjugal fondé sur la hiérarchie des sexes et sur la domination de l'homme sur la femme. La deuxième remarque est le fait, si l'on lit bien les évangiles, que Jésus s'est constamment montré particulièrement miséricordieux vis-à-vis des femmes, que ce soit la femme adultère, que ce soit la Samaritaine, les prostituées, Marthe, Marie, la liste est longue. Et enfin, la dernière précision que je voudrais apporter, et c'est là que j'en arrive à la deuxième partie de ce que je voudrais partager avec vous, c'est l'importance de resituer tout ce discours sur le divorce dans le contexte dans lequel l'évangile de Marc le place. Or, ce passage se trouve exactement entre la deuxième et la troisième annonce de la passion de Jésus. Et il se trouve que tout l'espace entre cette deuxième et cette troisième annonce de Jésus, de sa passion est marqué du sceau de l'impossible. Et c'est ce point-là que je voudrais voir avec vous, que je voudrais expliquer. Quand Jésus annonce sa passion, lors de cette deuxième annonce, les disciples n'y comprennent rien. Une fois de plus, ils ne comprennent rien. Ils sont incapables d'envisager ce qui les attend et ce qui attend leur maître. Pour eux, c'est du registre de l'impossible. Et la première chose qui leur importe dans la scène qui suit immédiatement, c'est de savoir qui est le plus grand parmi eux. Et à cette première préoccupation des disciples, savoir qui est le plus grand, Jésus oppose sa propre vision de la grandeur. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend un enfant dans ses bras, tout en disant qu'accueillir un enfant, c'est l'accueillir lui-même. Mieux encore, c'est accueillir Dieu. Quand on sait le mépris dans lequel étaient tenus les petits-enfants au premier siècle, dans la société du premier siècle, ce n'est pas un mince renversement, c'est même carrément impossible. Et cette scène avec les enfants va se reproduire une seconde fois, justement, juste après notre épisode sur le divorce. Comme si Jésus avait besoin de répéter encore une fois les choses, puisque les disciples, quand on amène à Jésus des petits-enfants, essaient de repousser ces petits-enfants. Et Jésus apporte encore quelque chose en plus à ce moment-là. Il affirme que le royaume des cieux, c'est justement pour ceux qui ressemblent aux enfants. Donc, après cette scène avec les petits-enfants, se présente un homme, ou plus exactement, les disciples rencontrent un homme qui a chassé les démons au nom de Jésus. Et là aussi, non, c'est pas possible, franchement. Que quelqu'un chasse les démons alors qu'il ne fait pas partie du club, j'ai le mot entre guillemets, ce n'est pas possible. Et Jésus leur dit, l'essentiel, c'est qu'on parle de moi. Et là aussi, ça nous interpelle, parce que dès le premier siècle, la concorde n'a pas franchement régné entre les chrétiens de la première église. Donc, nous sommes à nouveau en face d'un second impossible. Dans la scène qui nous occupe aujourd'hui, j'ai oublié une séquence encore qui me semble capitale. Dans la scène qui suit celle avec cet homme qui a délivré un autre, il y a cette célèbre scène qui pose tant de problèmes, qui est si difficile. Quand Jésus dit « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ton bras, etc., arrache-le. » Vous êtes bien d'accord que ça aussi, c'est un impossible. Nous nous voyons mal les uns les autres, nous énucléer, nous amputer le bras ou la jambe. Et pourtant, Jésus dit que c'est la condition indispensable. Si nous voyons que nous péchons de cette façon-là pour entrer dans le royaume des cieux, mais impossible. Et dans la scène donc, qui nous occupe aujourd'hui, celle qui traite de la question de la répudiation, il oppose la dureté du cœur et le plan originel de Dieu. Et là encore, nous ne pouvons que constater que cette affaire de guerre des sexes, entre guillemets, est loin d'être close. Et même si elle semble parfois un peu plus feutrée, et j'ajouterais avec un petit sourire, quoique. Bref, combien le vivre avec cet homme-là, avec cette femme-là, à nos côtés, c'est difficile, voire impossible. Enfin, dans la dernière scène, celle qui précède la troisième annonce, c'est l'entretien avec le jeune homme riche. Et là aussi, Jésus se heurte à l'impossibilité pour cet homme de lâcher ses richesses. Impossibilité qui démontre à quel point il y est asservi. À tous ces impossibles qui sont les nôtres, éradiquer notre soif de grandeur, notre prétendue supériorité, notre mépris ou notre rejet d'autrui, ou notre aliénation à ce que nous considérons comme des biens, de quelque nature qu'ils soient, est opposé à l'insistance de Jésus dans tout ce passage sur les notions de premier et dernier. En effet, tout l'espace entre la deuxième et troisième annonce de sa passion est encadré en amont par cette phrase. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier, et en aval par ses paroles, beaucoup des premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Il nous faut donc entendre ici « dernier » au sens de petit, de faible, de pauvre, de non reconnu. Tous ceux que Bernanos appelle les pauvres, des qualités, vous l'admettrez bien volontiers, qui sont toutes à l'opposé de celles prônées par la société, qu'elles soient celles contemporaines de Jésus ou qu'elles soient la nôtre. Une conception et une vision de la vie qui vont totalement à rebours des conceptions de ce monde, qui les renverse et qui implique un niveau éthique totalement irréaliste. Face à un tel niveau d'exigence, le malaise des disciples croît. Il ne cesse d'augmenter tout au long de la séquence. Et après le dernier échange, celui avec le jeune homme riche, les disciples ne peuvent s'empêcher d'avoir un mouvement de recul. Le texte nous dit « ils furent effrayés ». Et c'est un verbe rare en grec qui indique à la fois la stupeur et l'effroi. Nous sommes bien dans le registre de la dureté du cœur, et je mets le terme entre guillemets, hein, au sens où l'hébreu l'entend, dans le registre de cette incompréhension face à un tel discours. Et c'est à ce moment précis que Jésus prononce cette célèbre phrase « Il est plus facile à un chameau, vous connaissez la suite, de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Une phrase qui ne fait en fait qu'entériner l'impossibilité d'accéder de quelque manière que ce soit par nos propres efforts au royaume de Dieu. Et Jésus, devant l'effroi réitéré des disciples, s'empresse donc d'ajouter « C'est impossible pour les humains, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Cela signifie en clair qu'à cet inaccessible, qu'à cet impossible, Dieu oppose sa grâce. Cela veut-il dire que peu importe notre comportement, puisque de toute façon Dieu fait grâce ? Si vous relisez toute cette séquence, vous vous apercevrez qu'en son centre se trouvent deux petites phrases de Jésus, deux phrases qui en constituent en quelque sorte la clé de voûte. Non pas tant comme une recommandation, que plutôt comme une promesse. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Voilà le but. Ne pas perdre ce qui fait la saveur de chacune de nos vies, pour nous et pour les autres, et vivre en paix avec eux. Mais cette recommandation est sous-tendue par la nécessité de la conscience aiguë de ce qui nous meut si souvent. Notre illusion sur nous-mêmes, sur nos désirs plus ou moins occultés de grandeur, de prestige, de reconnaissance, de pouvoir sur autrui et de non-respect, voire de mépris ou même de rejet de l'autre, sur nos propres aliénations, la liste est loin d'être close. C'est ce qui faisait dire à Luther « Pecca fortiter sed fortius fidei et gaude in Christo », ce qui signifie « pêche courageusement, mais crois et réjouis-toi en Christ d'autant plus courageusement. Et le réformateur de poursuivre, te voilà pécheur, et tu ne pourras pas te sortir du péché. Pêche donc courageusement. » Cela est-il un encouragement à pécher, promotion d'une grâce à bon marché ? Aucunement. Mais ce que Luther dit ici, c'est « reconnaissons courageusement notre péché ». Ne cherchons pas à y échapper, mais croyons encore plus courageusement comme celui, et soyons comme celui qui rompt quotidiennement avec le péché et qui malgré tout reste inconsolable de son infidélité et de son péché quotidien. Et efforçons-nous, autant que faire se peut, d'avoir ce sel en nous-mêmes qui rend notre vie savoureuse et pour nous-mêmes et pour les autres, et de vivre en paix les uns avec les autres, en sachant que seul le Dieu de toute grâce nous accueille tels que nous sommes. Amen.
Vous venez d'écouter une méditation de l'Église réformée du Bouclier. Que Dieu, par sa parole, vous accompagne et vienne toujours mettre foi, espérance et amour dans vos vies.